Alléluia. Que Dieu soit béni. Mes bien-aimés, que Dieu nous bénisse ce matin. Vous savez, je suis heureux ce matin de vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, comme nous venons de le chanter, nous avons manifesté au travers de ces chants notre joie. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Amen. Et cette joie n'est pas une joie que nous fabriquons. C'est pas du préfabriqué, c'est ce qui découle de la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et cela est conforme au plan, au dessein et à la volonté de Dieu. L'apôtre dira particulièrement à cette église de Philippe, dont il avait été un instrument utile dans la main de Jésus pour sa création, sa conception, son développement. Soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. D'ailleurs, il dira, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. Et c'est vrai que, comme le Seigneur me le faisait comprendre dernièrement, pas plus tard qu'hier, c'est vrai, hier, c'est déjà passé, donc c'est dernièrement, mais hier, tout frais. Qu'est-ce qui me faisait comprendre? C'est ça le problème. Eh bien, vous allez tout savoir, j'avais la tondeuse à gazon à la main, mais mon esprit est en éveil par le Saint-Esprit. Et le Seigneur me faisait comprendre, Claude, tu sais, le chemin de la persévérance, c'est aussi le chemin du progrès. Mais le chemin de la persévérance, qui est en même temps le chemin du progrès, ou sur le chemin du progrès, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des choses qui surviennent sans qu'on les ait cherchées, que nous aurions tellement aimé ne pas connaître, mais d'après ce que me dit le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu permet pour nous amener à en tirer un profit personnel. Parce que, frères et sœurs, en Christ, sur le chemin de la persévérance, nous ne faisons pas toujours les choses comme elles devaient être faites selon Dieu. Vous me suivez toujours? Alors Dieu permet qu'il y ait certaines difficultés pour nous enseigner à mieux faire ce que nous n'aurions pas fait comme il faut. Et en faisant mieux ce que nous avons mal fait ou pas fait comme il faut, alors Dieu nous donne à tirer profit de nos erreurs. Mais c'est un peu l'image de l'école de Dieu. Et nous tous ce matin, nous sommes à l'école de Dieu. Et vous savez comme moi, je l'ai déjà dit et répété, que dans l'école de Dieu, pas la peine de croire qu'il y a des élèves surdoués. Tous à la même enseigne. Le seul qui est au-dessus de tous, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que ce matin, lui, le divin professeur, il est capable de prendre l'élève en main comme un disciple et de faire de lui, eh bien, quelqu'un qui va devenir progressivement un homme fait, c'est-à-dire celui qui, par l'usage, est exercé à discerner le bien du mal. Et quand je discerne le bien du mal, je me conduis par son esprit à accepter le bien, à me l'approprier, à vivre par le bien qui est en moi. Et il me donne en même temps la capacité de repousser ou de rejeter le mal. C'est ça l'école de Dieu. Le disciple n'est pas plus que le maître. Il suffit simplement au disciple d'être comme le maître. Et le plan de Dieu, c'est œuvrer avec le modèle que nous avons, la personne de Jésus, pour que de plus en plus nous soyons affermis. Et le modèle, c'est Jésus. Amen. Mais que Dieu soit béni ce matin, mes bien-aimés. Je vais rapidement me libérer des annonces communément appelées pastorales, parce que j'ai ce matin une parole de Dieu pour vous, pour l'Église. Et je commence par vous dire qu'il se pourrait que la parole que Dieu a mise dans mon cœur ce matin ne plaise pas à tout le monde. Je commence par vous le dire. Je commence par dire qu'il se pourrait que la parole que Dieu a mise dans mon cœur ce matin ne plaise pas à tout le monde. Et particulièrement, le tout le monde, c'est moi, c'est vous, c'est nous, notre vieille nature. Vous savez, notre vieille nature n'est jamais disposée ni seulement à entendre, mais à comprendre ce que Dieu dit et à l'appliquer. Mais le Seigneur ne compose pas particulièrement avec ma vieille nature, mais il compose avec ce que je suis devenu de sa part, un enfant du Père. Gens de sa maison, objet de son alliance, celui à qui il a fait grâce, une pierre vivante qui constitue l'édifice, qui est l'église que Jésus bâtit, celui en qui il a mis son esprit, qui a été donné comme étant le gage de notre futur héritage, qui est venu habiter en nous avec les arts, c'est-à-dire développer ce qui se vit déjà dans le royaume de Dieu en nous, dans l'homme nouveau. Et puis nous l'avons reçu aussi comme étant celui qui va prendre ce qui est du Père et qui va nous l'annoncer. Donc, tout un travail divin. Un travail à considérer sur un plan humain, ma vieille nature n'est pas toujours d'accord avec ce que Dieu dit. Mais un travail spirituel où l'homme nouveau se réjouit de ce qui est de Dieu. Tout à l'heure, le frère nous a dit, c'est pas le moment de nous laisser distraire, mais que nos oreilles spirituelles soient bien ouvertes. Et je vous invite à ce que nous nous occupions de notre âme. Amen. Et puis, celui qui va s'occuper de notre âme particulièrement, c'est le Seigneur Jésus. Puisque n'oublions pas que Jésus est là. Jésus est au milieu de nous. Une première lecture que nous allons faire en regardant une parole que notre Seigneur Jésus-Christ donne dans l'évangile de Luc, le chapitre 12 et au verset 1er. Luc 12, verset 1er. Et selon ce que notre Seigneur permettra, il se pourrait que nous ayons à revenir sur ce sujet, ou que moi j'ai à revenir avec l'Église, parce que si nous faisons aujourd'hui une ébauche, que nous considérons quelques pensées, selon ce que Dieu permettra, si le Seigneur le permet, hein, parce que c'est lui qui dirige, c'est pas moi, et tout est déjà remis dans sa main. Alors, nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, et au verset 1er. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés, dites avec moi, par milliers, au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples. Qu'a-t-il dit ce jour-là? Deux points. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Et frères et sœurs en Christ, je vous ai dit tout à l'heure, avant même d'ouvrir la Bible, qu'il se pourrait que ce que nous allons partager ce matin ne plaise pas à tout le monde. Mais en tant que pasteur, je ne suis pas là pour prêcher ce qui plaît à l'un ou à l'autre. Car si c'était le cas, je ne serais pas digne de servir le Christ. Mais à partir du moment que le Seigneur me donne par son esprit la direction qu'il veut que je prenne, ce n'est plus mon affaire, mais c'est le sien. Et c'est en sa présence que je donne à son peuple, à ses enfants, la pensée qu'il m'a communiquée, et dans ce cadre-là, puisqu'il est là au milieu de nous, il fera en sorte que sa parole, d'après la direction donnée, fasse son travail dans les cœurs. Amen. Avant que nous puissions aller plus loin,
Je vous invite à regarder avec moi une autre lecture qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 16 et au verset 6. Matthieu 16, verset 6. Un peu la même pensée. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Ceci, frères et sœurs en Christ, pour pouvoir nous amener à comprendre que si le Seigneur parle du levain, vous savez que le levain était proscrit dans certains sacrifices du Lévitique. Pourquoi? Parce que le levain symbolise le péché. Dans Romains, le chapitre 12, verset 9, c'est l'apôtre Paul qui enseigne et qui déclare, sous forme d'une exhortation donnée, il déclare dans Romains, le chapitre 12 et au verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Merci frère. Il y a un frère qui a dit spontanément amen. Mais il est le seul qui l'a dit. Que l'amour soit sans hypocrisie. Amen. Alléluia. Je vous ai dit que ça ne plaira pas à tout le monde, ce sujet. Mais il y a un seul frère qui a dit amen. Frère, que Dieu te bénisse. Que l'amour soit sans hypocrisie. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Frère et sœur en Christ, mes bien-aimés, quand notre Seigneur était sur la terre, vous le savez comme moi, le témoignage a été rendu de Jésus, particulièrement par un centenier, eh bien, ou plutôt, pas par un centenier, mais dans la maison d'un centenier, par l'apôtre Pierre. Il dira, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. D'ailleurs, il est dit que Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité. Mais une des particularités de Jésus consistait aussi à prendre du temps pour enseigner. Et dans la première lecture que nous avons faite dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 1er, nous avons été conduits à trouver ce que la Bible nous dit sur ces entrefaits. Alors, vous savez que pour moi, quand je donne l'enseignement à l'Église, chaque mot pour moi a son importance. Alors, j'ai été conduit à regarder qu'est-ce que c'est qu'un entrefait. Parce que si je lis sur ces entrefaits, il est bon que je sache qu'est-ce que c'est que ces entrefaits. Eh bien, j'ai trouvé qu'un entrefait serait à définir comme un espace qui s'écoule entre deux actions ou deux événements. Alors, si je lis sous ces entrefaites, il faut que je sache pourquoi ou ce qui s'est passé. Alors, ça n'a pas été compliqué, je n'ai qu'à regarder le chapitre précédent. Et j'ai trouvé que dans le chapitre précédent, avant que nous allions plus loin, par exemple, un premier aspect va nous conduire à Luc 11, 33. Où nous voyons Jésus déclarer, personne n'allume une lampe pour la mettre dans le cachet ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Et puis, une fois que Jésus a dit cela, il va amener comme quelque chose qui ressemble fortement à une parole ciblée où chacun, en se l'appropriant, sera conduit à regarder par rapport à ce que Jésus dit, où il en est. Ton œil est la lampe de ton corps. Et vous voyez bien que Jésus n'a pas dit tes yeux, mais dit ton œil. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Jésus l'a-t-il dit, oui ou non? Oui, Jésus l'a dit. Alors, une fois qu'il a dit cela, il ne va pas s'en contenter. Je vous ai dit qu'il va, en quelque sorte, comme responsabiliser ceux qui entendent sa parole, pour que chacun, en l'entendant, soit obligé de regarder en lui-même, par rapport à ce que Jésus dit, où il en est. Prends donc garde. Et vous voyez bien que Jésus n'a pas dit « prenez donc garde », mais dit « prends donc garde ». Tu, pronom personnel. C'est ça, hein? Ah, mais le « tu » ce matin, c'est toi, c'est moi. C'est chacun d'entre nous. Prends donc garde. À quoi? Que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Et frères et sœurs, ce matin, il y a une lampe qui est allumée au milieu de nous. C'est la lampe divine, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est là pour nous éclairer, éclairer nos cœurs et nos consciences, notre esprit. Il profite de ce moment de rassemblement pour nous parler. Et Jésus ne dit jamais quelque chose gratuitement. Donc, le premier aspect de l'entrefaite, c'est cette première pensée qui va obliger l'auditeur à regarder par rapport à ce que je dis, Jésus dit, où il en est. Mais il a continué pour amener le deuxième entrefaite. Verset 37. Pendant que Jésus parlait, aïe, je commence déjà par dire aïe, parce que ce jour-là, ce pharisien aurait dû réfléchir avant d'inviter Jésus. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Jésus entra et se mit à table. Normal, on l'a invité à dîner. Mais le verset 38 nous montre que le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé la main, qu'il ne s'était pas lavé, pardon, avant le repas. Donc, le pharisien a vu avec étonnement que Jésus ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, aïe, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Écoutez, si vous m'invitez à manger chez vous, vous avez tout préparé pour me recevoir, et puis vous me mettez à table, et puis je me mets maintenant à commencer à vous donner des paroles qui ne sont pas du tout dignes d'un invité, de celui à qui ou pour qui vous avez préparé un plat. Alors Jésus ne s'occupe pas autant du plat. Mais vous remarquerez que le pharisien n'a rien dit particulièrement, mais il a remarqué. Et ce qu'il avait remarqué obligatoirement a suscité en lui autant de la réflexion que des remarques intérieures. Je l'avais dit que Jésus se lit dans les cœurs. Il sait tout ce qui se passe dans nos cœurs. Il n'est pas la peine qu'on essaie de jouer à cache-cache avec Jésus. On a perdu d'avance le combat. Il sait ce qui se passe dans nos cœurs. Ils sont chaque cœur ce matin. Devant lui, tout est nu à découvert. Alors, ce pharisien va entendre de la bouche de Jésus cette déclaration, mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, Vous qui faites partie de cette secte religieuse très influente en Israël. Vous qui êtes attaché à ce principe religieux, tellement attaché à la tradition des pères en même temps, que vous substituez à la parole de Dieu la tradition des pères. Non seulement vous leur donnez autant d'importance, mais quelquefois vous faites passer la tradition des pères avant les Saintes Écritures. Et c'est dans ce cadre-là que nous lisons sous ces entrefaits les gens s'étant rassemblés par milliers. Et j'ai bien insisté sur le fait que le Seigneur va s'adresser d'abord aussi à ses disciples, mais il va en même temps parler aux milliers. Car lorsque le Seigneur parle ce jour-là, son but, c'est quoi? Eh bien, dans son ministère, comme cela arrivait quelquefois, il va premièrement dénoncer l'hypocrisie et son mode de fonctionnement. Mais en même temps, à ses disciples, il va œuvrer pour donner quelques éléments de mise en garde quant au fonctionnement de l'hypocrisie et de son implication dans notre vieille nature, dans notre chair, pour que nous puissions être exercés autant à le discerner qu'à le combattre et par conséquent à le rejeter. Je répète, quand Jésus s'adresse après ses entrefaits aux gens qui étaient là par milliers et se mettant à enseigner ses disciples, il leur a déclaré avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Alors, frères et sœurs en Christ, avant que nous avancions, il est bon que nous nous arrêtions sur ce mot, l'hypocrisie. Et en m'y arrêtant, j'ai été conduit à regarder deux aspects de l'hypocrisie. Qui, quelquefois, même si je suis un enfant de Dieu, peut s'installer en moi. De manière sournoise. Et même si les yeux de l'homme ne le voient pas, les yeux de Jésus le voient. Bien. Alors, l'hypocrisie, c'est quoi? C'est l'aspect divin. Cela pourrait être défini par le fait de se comporter différemment de ce que l'on prétend croire. Le fait de se comporter différemment de ce que l'on prétend croire. Et puis, pour continuer, eh bien, c'est faire semblant d'être ce que je ne suis pas. Ça, c'est le premier volet. Mais l'autre volet va nous amener à considérer l'hypocrisie comme étant le fait de mépriser les autres, mais sans tenir compte de mes propres failles. Je vous ai dit au départ que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce sujet. C'est dans ce cadre-là que Jésus dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite! Oh, j'ai un petit peu appuyé dessus, hein. Mais il faut que la vieille nature ce matin entende ce que Jésus pense d'elle. Ôte d'abord la paille dans ton œil et tu pourras dire à ton frère qu'il a ôte la poutre dans ton œil et tu pourras dire à ton frère qu'il a une paille dans le sien. C'est quand même quelque chose, frères et sœurs, qui est extrêmement grave parce que je me suis laissé aller à penser qu'il y a une différence entre une paille et une poutre. Cela veut dire que l'hypocrisie, dans son action, nous conduit à une forme de déraisonnement qui ressemble fortement à l'aveuglement. Et si nous nous laissons entraîner sur son terrain, Non seulement l'hypocrisie c'est un péché, il se manifeste par des actions, et puis ce n'est jamais sans conséquence. Je vous l'ai dit dès le commencement, hein. Notre vieille nature n'est pas du tout d'accord avec ce que Dieu va dire ce matin. Hypocrisie, se comporter différemment de ce que l'on prétend croire. Pourtant, ce matin, nous avons la foi. Croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous aimons Jésus, nous proclamons que nous aimons Jésus. C'est bien. Mais il faut que nous ayons un comportement en rapport avec ce que nous croyons. Si c'est pas le cas, nous sommes des... On a du mal à le dire, hein. Je vous ai dit au départ que nous ne serons pas d'accord du tout à ce que Jésus dit. Mais nous sommes en sa présence ce matin. Et ce qui me donne de la joie, c'est que quand le maître m'a donné cette direction, je n'ai pas tergiversé. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté se fasse. Et même je l'ai prié, Seigneur, conduis-moi, inspire-moi et dirige-moi pour que je sois ce matin un instrument entre tes mains afin que tu donnes ta pensée à tes enfants. Vous comprenez pourquoi le pasteur gentil est à l'aise pour vous parler. Parce que c'est pas de moi, c'est de Jésus-Christ. Et quand ça vient de Jésus, toute bouche se ferme. Et au lieu de regarder aux frères et à la sœur à côté de moi, Jésus me conduit à regarder en moi-même. Ça va toujours? Bien. La cocotte minute commence à bouillir. La température commence à monter. Mais laissez-moi vous dire que Jésus contrôle. Bien. Allons-y. Regardez avec moi, frères et sœurs en Christ, comment notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, et au verset 1er, alors, j'espère que je ne me trompe pas, hein. Si je me suis trompé, vous allez me corriger. C'est ça, Matthieu 15, verset 1er. Alors, les pharisiens ou des pharisiens et des scribes vint de Jérusalem auprès de Jésus. Donc, ils sont venus auprès de Jésus, et voici ce qu'ils vont déclarer à Jésus. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils étaient attachés à la tradition des pères, hein. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce que j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Cette fois-ci, je l'ai dit un petit peu plus doucement. Mais que cela soit dit fort ou petit, c'est la même chose. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore de lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Pourtant, c'était des gens religieux. Car le scribe avait pour mission d'enseigner les textes sacrés. Mais avant de les enseigner, il devait d'abord lui-même les étudier. Mais la tradition des pères, quelquefois, prenait le pas sur la parole de Dieu. Pourquoi tes disciples transgressent-ils le commandement de Dieu? Ils mangent sans se laver les mains. C'était important pour eux de manger, de se laver les mains. Moi, si jamais j'ai faim, puis bon, ça m'a envie de laver les mains, mais des fois je passe à table, je ne me suis pas lavé les mains. Est-ce que le manger sera... va passer de travers de ma gauche pour ça? Non. Et non, c'est pas ce qui est important. Parce que le Seigneur ne regarde pas autant la manière que je mange, mais il regarde à mon cœur. Bon, ceci étant dit, je lavais les mains avant de passer à table. C'est une règle d'hygiène élémentaire. Mais des fois, une fois que vous avez faim, il arrive que des fois vous oubliez de vous laver les mains. Mais pour eux, c'était important. Avant de passer à table, il fallait respecter scrupuleusement bien des règles humaines d'hygiène. Mais quand c'est la parole de Jésus, les règles d'hygiène passent au deuxième plan et la parole de Jésus passe au premier plan. Frères et sœurs en Christ, allons plus loin. Allons plus loin et regardez avec moi, frères et sœurs en Christ, ce que Jésus va déclarer toujours. Avant que nous allions plus loin, je veux vous amener quand même à un aspect de l'hypocrisie. Et c'est vous qui allez définir avec moi, quelquefois, comment peut se manifester cette hypocrisie. En regardant dans l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 13 à 17. Alors, c'est là où le Seigneur Jésus me conduit à vous amener, parce qu'il est important que nous discernions ce matin cet aspect de la manifestation de l'hypocrisie. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens, et cette fois-ci sont accompagnés des Hérodiens, ceux qui faisaient partie d'Hérode. Et regardez avec moi ce qui est mentionné d'après leur envoi, afin de le surprendre par ses propres paroles. Donc, on a envoyé auprès de Jésus ce jour-là des pharisiens accompagnés d'Hérodiens. Mais ceux qui les ont envoyés avaient déjà essuyé de la part de Jésus un premier revers. C'était des sacrificateurs, des gens religieux. Alors, parce que Jésus, par son enseignement, leur avait en quelque sorte, excusez-moi du terme, fermé la bouche, parce qu'il leur avait déclaré et qu'ils s'étaient reconnus dans ce que Jésus avait dit, alors ils ont envoyé des pharisiens. Et lorsque les pharisiens sont allés, ils ont commencé, pour essayer de surprendre Jésus, verset 14, il vint lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Jusque-là, c'est bien. Alors, ils ont dit à Jésus la suite. C'est-à-dire, la manière de procéder a été en quelque sorte de préparer le terrain pour amener la question. Est-il permis ou non de payer le tribut de César? Première question. Avant que Jésus n'eût répondu, il continue. Deuxième question. Devons-nous payer ou ne pas payer? Donc c'est là une première question, mais avant que Jésus donne une réponse, ils ont déjà posé une deuxième question. C'est un peu le mode de fonctionnement quand tu veux obliger quelqu'un à répondre. C'est comme ça que fonctionnent certains journalistes. Avant même que vous donniez une réponse, il pose une autre question. Alors vous êtes tellement submergé de questions, là vous êtes obligé de dire n'importe quoi. Ça, un journaliste, oui, mais pas avec Jésus. Avec Jésus, ça ne marche pas. La preuve. Jésus connaissant quoi? Ah, leur hypocrisie. Jésus connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Et quand Jésus a eu le denier en main, et ils en apportèrent un, Jésus leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?» L'effigie, c'était le visage de César. Et l'inscription, c'était la valeur de la pièce. Voilà. Alors, et ils ont, de César, répondit-il. Ils en apportaient, et puis ils ont répondu, de César. Alors, il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent saisis de grand étonnement. Ils ont commencé par venir vers Jésus, et c'est là que je vais vous inviter à discerner, à comprendre avec moi leur attitude. Maître, nous savons que tu es vrai, que tu prêches la parole de Dieu sans t'inquiéter de personne. Cela s'appelle comment? De là? Dites-le plus fort, de là? Flatterie. Cela s'appelle de la flatterie. Ils ont commencé par flatter Jésus pour arriver à leur fin. Mais avec Jésus, ça marche pas. Et frères et sœurs en Christ, savez-vous que notre vieille nature est un peu comme ça? Excusez-moi de vous le dire, mais... Oui, attendez. Il y a, frères et sœurs en Christ, dans notre vieille nature, quelque chose qui s'apparente de la fable du renard et du corbeau. Oh, je ne vais pas vous le réciter. Je sais que beaucoup d'entre vous le connaissez. Mettre corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Vous le connaissez? Et qu'a fait maître renard par l'odeur alléchée? Il est venu, il lui dit, il a commencé à faire des déclarations, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre plumage se rapporte à votre ramage, vous êtes le phénix des hôtes de ce bois. Et ça a marché. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie. Il ouvrit un large bec. Mais en ouvrant le large bec, il a laissé tomber sa proie. Pourquoi? Parce que Maître Renard est venu par l'odeur alléchée. Donc, dans la flatterie, frères et sœurs en Christ, il y a toujours la recherche d'un intérêt personnel, mais par la tromperie. Hypocrite. Lorsqu'ils sont venus vers Jésus, ils ont été envoyés par d'autres. Et en venant envoyés par d'autres, ils ont adopté un stratagème pour essayer de surprendre Jésus en flagrant délit de transgression de la loi. Je pointe par ces paroles. Mais si tu viens vers moi, pasteur gentil, avec ce désir, ça peut marcher. Parce que je ne suis qu'un homme. Et en tant que tel, je peux manquer de discernement. Et si ce que tu me présentes est tellement bien présenté, bien préparé, il y a le risque que je l'accepte et que je l'avale. Mais si tu viens vers Jésus, avec de telles intentions, non seulement il va discerner ce que tu as dans le cœur, mais il va agir pour te donner une leçon. Il ne va pas t'écraser, mais il va te donner une leçon. De telle manière que tu comprennes qu'avec lui, on ne peut pas jouer la comédie. Est-il permis de payer le tribut de César? Devons-nous payer, devons-nous ne pas payer? Ils veulent forcer Jésus à parler rapidement. Mais la flatterie du début n'a pas pris. Et quand la flatterie n'a pas pris, la suite ne prend pas non plus. Vous voyez ça qu'en Christ, quelquefois, il y a dans notre vieille nature quelque chose qui se manifeste de manière similaire que ce que nous venons de lire. Oh, ça se fait de manière sournoise. Mais en agissant de cette manière, nous laissons notre vieille nature nous entraîner sur le mauvais terrain. Et après, une fois que nous sommes arrivés un temps soit peu à notre fin, nous repartons un peu comme le renard avec le fromage dans la bouche, dans la gueule, mais on n'est pas un renard. Ce n'est pas un fromage qu'on a dans la bouche, mais nous avons une conscience. Nous avons une conscience. Et dans la conscience, le mal que nous avons fait s'allume avec une lumière rouge pour nous amener à comprendre que nous n'avons pas agi droitement devant Dieu. Nous sommes tombés dans l'injustice. Aussi, je laisse l'injustice de ma vieille nature m'entraîner à des actes répréhensibles devant Dieu. Automatiquement, frères et sœurs en Christ, quand le Saint-Esprit m'éclaire, je comprends qu'il faut que je retourne aux pieds de Jésus et que je m'humilie pour lui demander pardon. Amenez-moi un denier. De qui sont cette effigie et cette inscription de César? Il ne faut pas mélanger les choses humaines, terrestres, mondaines, avec ce qui est du royaume de Dieu. Ah, je vous ai dit ce matin que le Saint-Esprit m'avait déjà averti que ce que Dieu va dire n'est pas bien quelque chose que nous sommes prêts toujours à accepter. Mais même si on n'est pas prêt à l'accepter, le Seigneur nous le dit quand même. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il veut que nous puissions, dans ce cadre-là, faire des progrès. Dénoncer l'hypocrisie et son mode de fonctionnement, mais aussi nous mettre en garde quant à son action dans notre vieille nature, pour l'empêcher de s'exprimer comme il voudrait. Ça va toujours? Alors, si ça va toujours, donc on a vu que l'hypocrisie dans son mode de fonctionnement fort souvent est accompagnée ou utilise la flatterie pour arriver à ses fins. Et puis, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23 et tout au long du chapitre, notre Seigneur va agir pour non seulement dénoncer l'hypocrisie, mais en même temps le condamner au travers toujours de ces gens religieux, les scribes et les pharisiens. Mais arrivé au verset 27, Matthieu 23, verset 27, dans la censure que Jésus va dénoncer, il va dire, malheur à vous, scribes et pharisiens, dites avec moi, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Et notez, qui? Ah, qui paraissent, ils paraissent. Ils paraissent beaux au dehors. Et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste. Ah, attention, vous paraissez juste, mais aux hommes. Autant vous pouvez paraître juste aux hommes, autant vous paraissez et vous êtes injuste devant Dieu. De même, vous de même, verset 28, Au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous paraissez comme des sépulcres blanchis. Pourquoi le Seigneur emploie-t-il l'expression sépulcre blanchi? Eh bien, c'est parce qu'en ce temps-là, comme cela a pu se faire aussi, ça se faisait des fois aux Antilles, dans les cimetières, eh bien, lorsqu'approchait le 1er novembre ou le 2 novembre, enfin, la fête de la Toussaint, etc. Mais enfin, mettons la Toussaint de côté. C'était une fête religieuse sur le plan où les morts étaient commémorés. Alors, un cimetière qu'il fallait préparer ou embellir, etc. Et dans ce temps-là, du temps de Jésus, il y avait une coutume qui existait, c'est qu'il fallait embellir les tombes, et fort souvent, c'était pas simplement en un jour, mais c'était constamment. Les tombes étaient entretenues, et ils étaient blanchis avec de la chaux. On badigeonnait là, et puis quand le soleil était levé, le blanc éclatait. Puis il y avait des inscriptions, etc., pour montrer qu'on honorait les défunts. Or, Jésus prend cette image-là pour montrer que les scribes et les pharisiens, ils avaient beaucoup de choses, mais dans leur, dites avec moi, le paraître. Quand quelque chose est blanc, éclatant, ça attire les regards. Alors, Jésus prend cette image, vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Mais même si un sépulcre est blanchi, quand même vous le ferez le plus blanc possible, eh bien, obligatoirement à l'intérieur, ça sent la mort. Car c'est un lieu, même s'il est beau à l'extérieur, qui est destiné à recevoir les corps, et les corps sont appelés à devenir des ossements. Ça va toujours? Alors Jésus va prendre cette image et pour leur dire, pour vous, vous avez tout dans le paraître. Mais si l'hypocrisie veut nous amener à paraître, la foi en Jésus-Christ nous amène, avant de paraître, à être. Christophe en a fait mention tout à l'heure. Dès lors qu'il a fini de parler des béatitudes, il va commencer à donner une série d'enseignements au travers desquels il dira, pour montrer de ne pas s'inquiéter, etc. Mais à un moment donné, il dira, vous êtes le sel pour la terre. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Et on ne doit pas trouver étrange que Jésus parle du sel avant de parler de la lumière. Car c'est un enseignement destiné aux disciples. Jésus veut nous faire comprendre qu'avant de paraître la lumière qui éclaire, ou d'être la lumière qui éclaire, il faut que nous soyons du sel, avec trois propriétés particulières. Donner du goût de la saveur, donner soif, et empêcher la prolifération de l'impureté. Est-ce que nous le sommes ce matin? Nous le sommes. Mais quelquefois, par l'hypocrisie, c'est un frein à sa manifestation. Merci Seigneur. Sépulcre blanchi. Aujourd'hui, mais le plus beau costume, belle cravate, beaux chaussures, ça c'est bien. Mais le Seigneur voudrait que tu sois aussi beau à l'intérieur que tu le montres à l'extérieur. Ah, pasteur gentil, je n'étais pas venu pour entendre ça ce matin.
Ah ben justement,
le Seigneur sait de quoi il doit te parler. Parce que même si tu n'étais pas venu pour entendre ça, c'est pas ce que tu es venu pour entendre qui est important. C'est ce que Jésus a à te dire. Et moi, j'aime quand Jésus me parle. Parce que quand Jésus me parle, c'est toujours pour m'aider à me remettre en question. Jésus ne va pas me parler pour me dire, Claude, je te parle, mais pendant que moi je te parle, regarde à Octave. Qu'est-ce que j'ai à regarder à Octave? Jésus est assez grand pour regarder en Octave. Alors, à Octave. Mais quand il me parle, c'est pour que je regarde en moi-même. Est-ce que ce matin, mon frère, ma sœur, avec l'enseignement de Jésus, tu es conduit à regarder en toi-même? Oui. Et même si ta vie nature n'est pas d'accord, l'homme nouveau en toi se réjouit de ce que Jésus dit. Il adhère. Il comprend. Il accepte. Il se soumet. Et parce qu'il se soumet, alors le Seigneur peut t'emmener plus loin. Ah. Écoutez, regardez, frères et sœurs en Christ, Matthieu 23, verset 1er. Et si vous avez l'occasion chez vous, quand vous lirez l'ensemble du chapitre 23, vous verrez que cette fois, Jésus dénonce l'hypocrisie des scribes et des pharisiens, autant dans leur comportement, dans leurs actions, dans leurs déclarations. Mais le Seigneur va encore, en quelque sorte, faire, non pas un historique, mais il en parle, Matthieu 23, verset 1er. Alors, Jésus parlant à la foule et à ses disciples. Donc, on retrouve le même principe, la foule et les disciples. Je l'avais dit, ça concerne tout le monde. Disciples, je le suis devenu, ça me concerne. Mais c'est le même principe qui s'applique dans le monde. Parce que fort souvent, frères et sœurs, en Christ, il y a les grands qui nous gouvernent. Lorsque vous les voyez, fort souvent, ils sont bien habillés, bien propres, ils ont, un compte en banque bien garni. Enfin, ils ont du prestige, ils ont de la renommée, etc. Mais ça, c'est le regard humain. Mais quand le regard de Dieu se pose sur eux, eh bien, il y a cette déclaration des Saintes Écritures. Tout ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination devant l'Éternel. Alors, laissez-moi vous dire que fort souvent, leur attitude et leur réussite est entachée par l'iniquité et le péché. Donc, nous sommes bien sur le terrain de l'hypocrisie. Autant dans la foule, mais dans les disciples, le Seigneur va dénoncer comme une mise en garde pour que nous puissions empêcher la manifestation de cette hypocrisie en nous comme enfants du Père. Gloire à Dieu. Ça va toujours? Bien. Matthieu 23, verset 1er. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. » Parce que je dis, qu'est-ce que ça signifie, chair de Moïse? Eh bien, la chair de Moïse pourrait définir un peu tout ce qui découlerait de l'attitude et du rang religieux. Ils étaient assis dans la chair de Moïse, c'est-à-dire ils se complaisaient dans le judaïsme. On a notre religion. Vous savez, quand Jean-Baptiste est venu prêcher dans le désert et que des gens venaient vers lui, il n'a pas dit « Venez par ici, hein ?» Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Moïse pour père. Assis dans la chair de Moïse. La religion, les pratiques religieuses, je suis ceci, je suis cela. Mais beaucoup parmi les pharisiens, assis dans la chair de Moïse, leur attitude consistait à lier des fardeaux qu'ils mettaient sur les autres, mais qu'eux ne voulaient pas bouger du petit doigt. Hypocrite! C'est-à-dire, ils se complaisaient en eux-mêmes, mais comme l'avons vu, sans faire cas des autres. Oh, que Dieu nous garde, mes bien-aimés. Nous ne voulons pas nous complaire et nous installer dans de l'évangélisme. Devant Dieu, ça n'a pas de valeur. Ce qui est important devant Dieu, c'est la pratique de la miséricorde. Comme des 10 enfants de père. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront. Ah, tu veux que Dieu te fasse miséricorde. Et pourquoi ne fais-tu pas miséricorde à ton frère? C'est comme cet homme qui avait quelqu'un qui lui devait de l'argent. Et lui aussi devait de l'argent à quelqu'un. Lorsqu'il a rencontré celui qui lui devait de l'argent, il l'a saisi à la gorge, et puis il a commencé à le secouer, « Donne-moi mon argent !» Et après, lorsque celui à qui il devait l'a rencontré, eh bien, les choses ne sont pas passées du tout comme elles devaient. Alors le Seigneur va lui donner une grande leçon. Si tu veux qu'on pratique la miséricorde à ton égard, commence à le pratiquer à l'égard de l'autre. Et le Seigneur même va même plus loin. Sois donc miséricordieux, comme ton Père est miséricordieux. Est-ce que Dieu nous a fait miséricorde, frères et sœurs? Ah, sa miséricorde pour nous durera toujours. Non seulement lorsque nous avons cru pour le salut, mais tout au long de la vie chrétienne, Dieu nous fait miséricorde. Il use de miséricorde à notre égard. Alors si Dieu use de miséricorde à notre égard, ne laissons pas l'hypocrisie nous priver de faire miséricorde à notre frère. Alors, regardez avec moi. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Pourquoi? Ce qu'ils vous disent viennent de la loi de Moïse. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Pourquoi? Car ils disent, mais ils ne... Ah, il y a beaucoup de gens qui sont forts dans le dire. Ils sont prêts même à faire de belles déclarations pour montrer un tant soit peu leur spiritualité. Mais quand vous les voyez agir, vous êtes à milieu de les voir faire ce qu'ils disent aux autres, mais ne le font pas eux-mêmes. Jésus dénonce cette forme d'hypocrisie. Verset 4, il lit des fardeaux pesants. Ah, non seulement des fardeaux, parce qu'un fardeau c'est déjà quand même quelque chose. Si j'ai un fardeau sur le dos, c'est difficile d'avancer. Mais un fardeau pesant, c'est encore plus pénible. Alors Jésus prend l'image du fardeau, mais il rajoute pesant. Lorsqu'un fardeau est sur le dos de quelqu'un, c'est déjà difficile. Mais un fardeau pesant, vous êtes écrasé. Eh bien, cela veut dire que eux, ils écrasent les autres. Mais ce qu'il met sur le dos des autres pour les écraser, eux-mêmes ne veulent pas le porter. Il lit des fardeaux. Mais, frères et sœurs en Christ, si nous faisons attention à ce que nous lisons, nous sommes obligés d'entrer dans la réflexion. Nous avons lu quoi? Il lit des fardeaux. Vous savez, si je mets un fardeau sur le dos de quelqu'un, le fardeau est sur son dos. Bon, si lorsqu'il est trop fatigué, il peut le jeter. Mais si le fardeau est lié sur son dos, il aura plus de mal à s'en décharger. Donc ça veut dire qu'il y a dans leur attitude quelque chose qui ressemble fortement à de la méchanceté. Jésus n'a jamais lié de fardeau pour le mettre sous mon dos. Il m'a dit, Claude, prends sur toi mon joug et recevez mes instructions. Et après il m'a dit, Claude, mon joug est doux. Claude, mon fardeau est léger. Cela veut dire que tu pourras avancer avec ce que je te dis. Ou mieux encore, ce que je te dis va t'aider à avancer. Tandis que ce qu'on met sous ton dos par l'hypocrisie t'écrase. Donc deux aspects, ce que Jésus fait et ce que les hommes font par leur hypocrisie. Alors moi, il y a longtemps que j'ai fait mon choix. Et ce matin, le Seigneur m'a donné un joug doux
et un fardeau léger pour que je puisse vous apporter sa parole et sa pensée. Seigneur, tu es bon.
Amen.
Tu es merveilleux. Tu nous aimes. Et même quand la pensée, Seigneur, semble difficile à avaler pour la vieille nature, la bouche de mon âme s'ouvre, elle l'accepte, elle l'apprécie, elle la déguste, et elle s'en réjouit. Gloire à Dieu. Je conclue. Il lit des fardeaux pesants, les met sous les épaules des hommes, mais il ne veut pas les remuer du doigt. Et puis après, le Seigneur va dénoncer encore quelques-unes de leurs attitudes. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Toujours avec les sépulcres blanchis, paraître devant les hommes. Et vous remarquez fort souvent, frères et sœurs en Christ, que dans leur attitude, il est rare que vous voyez leurs actions être faites devant Dieu. C'est toujours devant les hommes. Devant les hommes. Toujours dans le paraître. Mais ce matin, je n'ai rien à faire devant les hommes. Ce que je fais, je le fais devant Dieu. Et je crois que ce matin, le Saint-Esprit a assez parlé. Nous avons reçu de la part du Seigneur ce qui convient pour un examen général de soi-même. Et pour toujours, comme je vous expliquais en entrée en matière, nous appliquer à tirer des leçons de ce que Jésus nous a dit. Et peut-être que quand tu seras couché sous ta couche, le Saint-Esprit va encore reprendre la pensée pour te la communiquer et te dire maintenant, voici ce que j'attends de toi. Prions le Seigneur.